Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 20 juillet 2024 et on vient de vivre la pire semaine sur le S&P 500 depuis 3 mois. Alors il y a 2-3 raisons à cette espèce de correction entre guillemets relativement violente, en tout cas une correction dont on n'est plus habitué depuis quelques temps puisque les marchés ne font que monter. Et je rappelle que le S&P 500 n'a plus perdu plus de 2% depuis quasiment 350 jours de trading. Résultat, on n'a vraiment plus l'habitude de ce genre de mouvement violent, et encore je dis violent entre guillemets parce qu'on n'a pas vraiment encore connu des mouvements violents comme on a pu en connaître à l'époque. Les gens se posent des questions. Alors, la politique, l'économie, la macro, les chiffres trimestriels, les changements à venir dans le tissu économique américain et européen font que pour l'instant, les gens se posent pas mal de questions. Vous noterez que depuis qu'on a acquis cette certitude que les taux vont baisser, eh bien, le marché n'est plus aussi convaincu que ça peut monter indéfiniment. Même si certains indices continuent de mettre des objectifs absolument stratosphériques pour le S&P 500 jusqu'à la fin de l'année. Donc si on devait résumer cette semaine en un mot, ce serait semaine drivée par la politique et finalement grosse déprime sur la technologie. Alors la première chose, on va commencer par ça, c'est simplement, vous l'avez vu, eh bien on sait très bien que ça va être très compliqué pour Monsieur Biden d'être à nouveau président des États-Unis l'année prochaine. Là on parle effectivement de démission, de renonciation, enfin tout le monde en parle, pour l'instant on n'en sait rien, il semblerait que lui veut continuer. Les démocrates sont de moins en moins d'accord, donc ça c'est une histoire dont on en reparlera probablement la semaine prochaine, mais pour l'instant c'est un doute qui est extrêmement présent. De l'autre côté, on a eu cet attentat dimanche dernier qui a fait que tout d'un coup, tout le monde s'est dit « bah voilà, Trump est un martyr, donc il va gagner, ça va être facile pour la suite ». Résultat, eh bien, on a un changement complet de vision ou de psychologie pour le marché sur les mois à venir. Alors d'abord parce que jusqu'à maintenant, on avait quand même un doute que M. Trump puisse revenir. Maintenant, on se rend compte que c'est vraiment de la réalité. D'ailleurs, quand vous lisez les médias du week-end, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui sont en train de courir derrière Trump. On se rend compte que de toute façon, Biden n'y arriverait pas et qu'il est temps de retisser des liens avec Donald Trump pour préparer les 4 prochaines années. Donc on voit quand même que les choses sont en train d'aller dans la bonne direction. Et puis, eh bien, cette semaine, alors on a beaucoup parlé des semi-conducteurs parce qu'il y a eu quand même des événements majeurs, 2 événements majeurs, puisque les États-Unis veulent limiter les exportations de produits technologiques type semi-conducteurs à direction de la Chine. Donc ça, ça a fait très très mal à des boîtes comme ASML, comme Lam Research, comme Applied Materials durant la semaine. Et ça a eu un lien direct sur la publication des résultats, puisque là, une grande partie des publications trimestrielles sur les sociétés technologiques comme Taiwan Semiconductor ou comme ASML, qui étaient bons, ont été sanctionnés par le fait que finalement, l'État, le gouvernement américain, veut changer d'orientation et de politique vis-à-vis des exportations pour ces sociétés qui, bien évidemment, vivent de ça. Donc on a un peu des craintes de ce côté-là. C'est ce qui a déclenché un petit peu le sell-off généralisé. Le sell-off qui est quand même bien présent depuis la publication du CPI de la semaine dernière, où on se disait, bon, bah, cette fois, c'est sûr, les taux vont baisser. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois cette semaine, il est plus que probable que les taux baissent en septembre. On a un taux de probabilité au-dessus des 95% selon les experts. Donc, du moment où on a pris en fait en compte le fait que les taux allaient baisser, eh bien, les marchés ont arrêté de monter et on a pris les profits sur les grosses technologiques. Alors, on a beaucoup parlé de rotation de secteur, de rachat des small caps. Et puis finalement, quand on regarde un petit peu le tissu du marché cette semaine, eh bien, c'est un petit peu tout le monde qui a cotisé. On a l'impression que les gens sont en train tout d'abord de liquider les positions qu'on a bien gagnées, de protéger les portefeuilles au cas où il y a quelque chose qui arriverait maintenant. On sent quand même qu'on rentre dans une zone d'instabilité, instabilité électorale déjà aux États-Unis. Donc on sait que ça ne devrait pas changer grand-chose in fine, que ce soit l'un ou l'autre de toute manière, si ce n'est le fait que Trump, qui est quand même plus va quand même plus pousser les réductions d'impôts et une certaine inflation. Donc dans un premier temps, on devrait aimer ça. Dans un second temps, quand on va voir l'inflation revenir, on serait peut-être pas forcément très content, mais l'un dans l'autre, on est en train de se positionner pour ça et on voit quand même énormément de gens qui viennent commencer à protéger les portefeuilles. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps, puisqu'on a vu que la VIX ne valait plus rien. Et la VIX, justement, cette semaine, la volatilité a littéralement explosé cette semaine parce que les gens sont en train de rechercher justement des trades qui leur permettent de protéger leur portefeuille pour les prochains temps qui pourraient être un peu plus incertain. On a bien sûr terminé la semaine avec cette immense panne sur CrowdStrike, enfin cette update de CrowdStrike qui finalement a mis à mal tout le système informatique mondial. Alors il y a eu énormément de bugs, énormément d'avions qui ont été annulés, énormément de sociétés qui se sont trouvées paralysées. Alors difficile de dire ce que ça va coûter. Tout ce qu'on sait, c'est que CrowdStrike s'est fait massacrer avant de rebondir et en terminant que en baisse de 11%. Ça a pesé sur toute la technologie encore une fois. On voit de nouveau que l'IT mondial fonctionne hyper bien, mais quand ça bug, eh bien ça peut bugger très très fort et très très vite, donc il y a eu quand même pas mal de trouilles qui s'est un peu développée par rapport à ça. Résultat, hier on finit légèrement en baisse. En même temps, quand on voit la baisse d'hier, c'est pas non plus la panique, mais néanmoins on voit que pour l'instant c'est vraiment la technologie qui est en focus, la technologie où les gens ont envie de prendre les profits, et ce genre d'événement, ça va pas forcément aider à rassurer sur les prochaines semaines. Les prochaines semaines qui vont être bien sûr bercées par les publications trimestrielles qui vont nous tomber dessus. Publications trimestrielles qui sont globalement bonnes pour l'instant, parce qu'on a vu bon chiffre chez ASML, bon chiffre chez Taiwan Semiconductor, bon chiffre chez Netflix, bon chiffre chez Novartis, relativement bon chiffre chez ABB, mais finalement tout le monde se dit bon bah les chiffres sont bons, hop on prend les profits parce que ça va être difficile de faire beaucoup mieux le trimestre prochain. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nos attentes sont plus ou moins hautes, mais on voit qu'on arrive encore à les matcher sur les quelques sociétés qu'on publié depuis le début de la saison des résultats. 13% des boîtes du S&P ont publié, 81% de ces boîtes-là ont fait mieux que les attentes, mais aujourd'hui mieux que les attentes ne suffit plus, il faut faire mieux que les attentes, mais en plus avoir des prévisions pour le trimestre prochain qui vont être absolument dithyrambiques. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué, parce que si vous êtes CEO d'une grosse boîte, c'est très très difficile de vous pointer pour dire ça a été super bien ce trimestre, mais le prochain ça va cartonner, alors qu'on rentre dans une zone d'incertitude politique, macroéconomique, on va avoir une baisse des taux qui pourra durer ou ne pas durer. On a vu la BCE d'ailleurs cette semaine qui a décidé de ne rien faire sur les taux et qui a tenu le même discours que Monsieur Powell, à savoir pour l'instant on fait rien, on va voir les prochaines données qui vont nous tomber dessus pour savoir si on peut ou si on doit faire quelque chose. Donc pour l'instant un statu quo. Donc on voit très bien que les banques centrales avancent pas à pas et qu'on va rentrer dans une période très compliquée. Donc du coup c'est compliqué pour un patron de société de s'emballer sur les deux prochains trimestres en disant ça va être facile, alors qu'il a absolument aucune visibilité ni macroéconomique ni politique. Donc c'est un peu plus difficile de se montrer enthousiaste, ce qui fait que le marché le sanctionne assez facilement. Alors sanctionner, tout est relatif. Quand on voit finalement la pression qui a été mise sur les sociétés qui ont publié, c'est tout relatif. Novartis qui perdait 3-4%, Netflix jeudi soir qui perdait 2%, donc c'est pas non plus une correction violente. Mais voilà, on voit que les gens sont un peu moins enthousiastes sur l'avenir et un peu plus prudents. Alors ça va peut-être aussi avec le fait qu'on est au mois de juillet, que c'est le plein été, et puis qu'ensuite, eh bien, il faudra laisser passer le mois d'août avant de revenir aux affaires un peu plus sérieuses sur la fin du mois d'août avec le gros meeting de Jackson Hole comme d'habitude. Et puis alors, on terminera un peu ce point de situation avec un upgrade qui a eu lieu hier aux États-Unis. C'est l'UBS qui a upgradé son target sur le S&P 500, mettant un target à 5900 pour la fin de l'année sur le S&P 500. Alors c'est fantastique. Après c'est rigolo parce que si vous regardez un petit peu l'évolution des price targets, eh bien au début de l'année, au tout début de l'année, ils étaient à 4850 de target sur le S&P 500. Au mois de janvier, ils sont passés à 5150. En février, ils sont passés à 5400. Et en mai, ils sont passés à 5600. Et là aujourd'hui, en plein mois de juillet, ils viennent avec un target 5900. Mais c'est pas tout, parce qu'ils nous ont également annoncé que potentiellement, si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et que l'intelligence artificielle était toujours géniale, que la croissance repartait à la hausse et qu'en plus l'inflation continuait de baisser, ils avaient carrément un bull case exceptionnel qui pourrait, je dis bien en conditionnel, emmener le S&P 500 à 6500 à la fin de l'année. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez sympa d'être stratégiste parce que vous pouvez avoir des targets très très bas, les modifier 15 fois dans l'année et puis arriver à la fin de l'année en se disant poum poum poum, vous voyez, j'avais raison, mais en même temps, vous avez juste suivi le marché, surfé sur la vague depuis le début de l'année. Donc voilà, nouveau target pour l'UBS, 5900 pour le S&P 500 si tout va mal et si tout va bien, 6500. Donc voilà, en conclusion, on se retrouve dans une fin de semaine un peu douteuse, des indices qui terminent majoritairement. On baisse quand même, on baisse sur la semaine également, on vient de le dire, hein, pire performance depuis 3 mois pour les indices américains. Le Dow Jones qui avait explosé en début de semaine se retrouve aussi au fond du bac en fin de semaine. On voit que les deals défensifs n'ont pas tenu le choc parce qu'il y a quand même eu un sell-off global. On se pose énormément de questions et pour l'instant, on navigue un peu dans le brouillard et je crois que c'est un petit peu ce qu'il faut retenir de cette fin de semaine. On navigue un peu dans le brouillard. La semaine prochaine, on va continuer avec les chiffres trimestriels. On aura aussi le PCE qui est la mesure adorée par la Fed pour savoir s'ils vont baisser les taux ou pas. Donc un PCE positif, enfin positif à la baisse gentiment, pourrait confirmer au-delà des 100% la probabilité de voir une baisse des taux au mois de septembre. Alors si on regarde la performance de la semaine sur les indices, les performances de la semaine sur les indices, eh bien on verra que effectivement on commence à se positionner dans ce qu'on appelle une Trump trade, hein. Donc tous les gens sont en train de repondérer leur portefeuille, se demander quels sont les meilleurs choix pour se positionner en fonction de l'arrivée de Monsieur Trump au pouvoir. D'ailleurs, on le voit très bien, le vainqueur de la semaine, c'est le Bitcoin, hein, puisqu'on sait que Monsieur Trump, c'est le président du Bitcoin, donc le Bitcoin qui prend 12%, le Dow Jones qui s'en sort moins mal que les autres avec 0,72% de hausse, la Chine qui continue à montrer des signes de faiblesse qui ne sont pas extraordinaires, mais qui termine quand même en hausse. On a un peu l'impression qu'on est en train d'enchaîner le pire, donc au bout d'un moment, c'est difficile d'aller chercher beaucoup plus bas sur la Chine. Et puis le reste, eh bien, tout est dans le rouge, hein. L'or qui a momentanément fait un plus haut historique cette semaine est en baisse de 0,7%. L'Italie perd 1%, l'Espagne perd 1,45%, le SMI 1,57% de baisse, le CAC 40, 2,46, bon le CAC on va pas revenir dessus mais c'est toujours la même histoire, le Nikkei qui est toujours sous pression en baisse de 2,67%, ça c'est à cause de la prise de profit sur la technologie qui s'est spreadée sur le Japon, le pétrole qui baisse, on va voir le chart tout à l'heure, en baisse de 3% sur le pétrole, le DAX qui perd 3% aussi, qui est très volatile d'ailleurs, le Nasdaq moins 3,65%, le Hang Seng moins quasiment 5%, et puis le Philadelphia Semiconductor Index qui est la grosse victime de la semaine, moins 8,80% pour toutes les raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure, puisque visiblement ni Trump ni Biden ne sont vraiment semi-conducteurs fans pour ces prochains temps. Donc correction assez spectaculaire sur les semi-conducteurs. La grande question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que ça peut continuer comme ça ou est-ce que c'était juste un moment donné dans la vague de prise de profit. En Suisse, c'était un sacré swing en Suisse puisqu'on a vu l'histoire du luxe. J'y reviendrai tout à l'heure avec les résultats de Swatch et de Richemont. Ben justement, Richemont perd 7% sur la semaine. ABB, après ses résultats, perd 6,8%. Logitech perd 4,4% avec son histoire de procès par rapport au blocage de l'Assemblée Générale. Bon, ça, c'est pas très, très important. Le reste était plutôt maîtrisé. Novartis perd 5,8% après ses publications qui étaient très bonnes et avoir relevé ses objectifs pour le prochain trimestre. Swiss Re qui perd 4%. Et puis Partners Group qui perd aussi 4%, ainsi que Sonova, UBS moins 3%, Givaudan 3,5% de baisse. Vous voyez que c'est quand même une semaine compliquée. Et puis alors, au milieu de tout ça, vous voyez le bon Roche qui prend 9,22% sur la semaine. Merci à la thématique de l'obésité qui fait littéralement exploser le bon Roche, et enfin les actions Roche cette semaine. Si l'on prend les graphiques, eh bien vous voyez que le SMI avait un point de résistance absolu à 12 569, on n'est pas allé jusque là. Ce qu'il faut noter quand même, si vous regardez en zoomant un peu sur ce graphique, vous voyez quand même très clairement qu'il y avait cette tendance haussière ici que vous voyez passer par là, et l'autre jour on est allé vraiment chercher cette tendance, on a tapé contre, et depuis, eh bien, on n'a plus relevé la tête et on a quand même baissé quasiment de 12 400 et des poussières pour terminer la semaine à 12 173, 250 points de baisse sur le SMI. Et on est venu combler cette espèce de petit gap qu'on avait laissé derrière nous. Donc on voit quand même que ça marche plutôt pas mal. Là, comme ça, instinctivement, on dirait que le SMI pourrait même aller chercher les 12 000 juste pour tester la moyenne mobile des 200 jours, des 50 jours, pardon, et puis retrouver cette espèce de bas, de support du canal latéral qu'ils avaient fait il y a quelques semaines pour pouvoir retrouver l'énergie et repartir à la hausse si les choses se calment un petit peu. Mais pour l'instant, ce qu'il faut noter sur le long terme, c'est que le SMI est toujours dans son immense canal haussier et que pour l'instant, rien n'y change et qu'à l'intérieur, eh ben, ça peut bouger beaucoup. Et comme je vous le dis, ben voilà, c'était vraiment impressionnant. Je dois dire que quand on voit ce genre de configuration, on voit qu'il y a vraiment, c'est des points très très importants. Et là, à 12 439, on avait la résistance du canal haussier, on a tapé dedans pour revenir quand même assez violemment sur le SMI. Bon, en France, rien de spécial. On a suivi un peu ce qui se passait dans le monde à droite à gauche. On a vu quand même les quelques chiffres économiques qui sont sortis en Europe qui n'étaient pas géniaux. Donc on voit que c'est pas génial. On voit que la BCE n'a rien fait, qu'elle attend d'avoir plus d'informations. On voit toujours au niveau de la France que pour l'instant, bon, au niveau gouvernement, c'est le Muppet Show. Hein. Ils ont voulu du changement avec les législatives. Ils ont réussi à réélire la même nana à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc c'est juste pathétique. C'est un espèce de cirque clownesque qu'on voit en ce moment en France. Donc le CAC 40 a de la peine vraiment à repartir pour le moment. On est dans ce range. Hein, là, et c'est assez facile à jouer. Pour l'instant, on a un range qui passe par 7700 à la hausse, et puis en bas, bah, vous avez le support des 7450 sur le CAC 40 qu'il faudra pas lâcher. Mais vous voyez, aujourd'hui, quand même, ça marche plutôt bien. Hein. On est vraiment dans cette espèce de configuration de range latéral. On attend de voir où on va sortir. Alors, on se contente de ce qu'on a pour l'instant dans ce range. Maintenant, selon qui va se retrouver à Matignon ces prochains temps, pour autant qu'on arrive à nommer quelqu'un, eh bien, on pourra se dire « Oulala, attention, ça va être mauvais ». Et donc là, on pourra casser à la baisse, ou alors on va être satisfait et retrouver un semblant de gouvernement à peu près stable, et on va repartir à la hausse. Mais pour l'instant, on a besoin de plus de confiance en France, et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Le DAX qui se balade dans tous les sens. Alors vous voyez, si on reprend un peu ce qui s'est passé sur le DAX ces derniers temps, il y avait un espèce de triangle qui se développait comme ça. Tac, si j'arrive à le tirer. Voilà, un triangle comme ça, horizontal. Donc du coup, on est sorti, on a tenté une sortie pour revenir dedans et réintégrer le triangle. Donc là, on est sur les bas, vraiment sur les bas du range. Vous voyez encore ce point que j'avais noté, hein, qui correspond à la baisse des taux, la première baisse des taux en Europe. Bah, comme par hasard, on est venu taper exactement ce niveau-là pour revenir chercher de nouveau les bas. Alors attention à ce niveau de rupture. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, on a quand même un espoir de voir rebondir le marché la semaine prochaine. Mais si c'est pas le cas, le DAX peut vraiment plonger assez facilement beaucoup plus bas. Le S&P 500, alors vous le voyez, ça se passe de commentaires. Hein, donc depuis le milieu de la semaine, eh bien depuis qu'on a eu ces histoires sur les semi-conducteurs, eh bien ça a commencé à retourner. Alors qu'est-ce qu'on peut en retirer? Bah, le dernier breakout qu'on a eu sur le S&P 500 nous amène pile poil à cette moyenne mobile des 50 jours. J'ai envie de dire qu'on a presque envie de voir le S&P retourner à 5423 pour se dire « Ah bah voilà, on y est ». On peut racheter, on peut jouer le rebond pour aller chercher les plus hauts de fin d'année. Enfin, fin d'année, on est encore loin de la fin d'année, mais ça va aller très très vite quand même. Donc du coup, on est revenu un peu dans cette tendance. Vous voyez aussi, si on regarde à plus court terme, qu'on avait on a une tendance qui s'est développée très verticale. Et cette tendance verticale, bah, elle nous laisse supposer que on est sorti de cette tendance. Donc attention, où est-ce qu'on va se poser? Est-ce qu'on va venir rechercher cette tendance, cette grande tendance de fond qu'on a maintenant depuis quasiment octobre 2023? Donc le bas de ce range se situe à 5375 sur le S&P 500. Ça, ce sera vraiment des points qu'il ne faut pas casser. Alors vous voyez que ça se recoupe quand même beaucoup. Ce support ici, la tendance là, c'est que c'est quelques points maintenant. Alors, on a 5505 sur le S&P 500 en fin de semaine. On va dire les 200, les 150 points qu'il y a en dessous là, ce sera très important parce qu'on doit vraiment ne pas aller plus bas que ces niveaux-là. Sinon, on peut encore en imaginer une correction beaucoup plus importante. Le Nasdaq, bah, c'est pareil. Alors, on avait notre biseau haussier avec notre target qui a été plus ou moins atteint tout en haut ici. Et on revient sur les bas, sur la moyenne mobile aussi des 50 jours. Même chose que sur le S&P 500. Hein. 19 320, ce sera le point bas qu'il ne faudra pas lâcher dans un premier temps. Sinon, alors là aussi, on a de la place pour aller chercher chercher bien plus bas sur le Nasdaq. Puisqu'on parle du Nasdaq, voici le SOX. Alors là, c'est pire. Ce qu'il faut regarder, c'est le retour sur cette espèce d'ancien point haut qu'on avait eu en mars 2024, avant la correction sur les semi-conducteurs. Donc ce niveau, il passe par grosso modo 5150 sur le SOX. Il faudra pas casser ce niveau-là. Sinon, là aussi, on risque d'aller chercher les points bas qu'on avait la dernière fois avant de trouver une forme de support. Mais ça, ça dépendra bien évidemment de comment est-ce qu'on se positionne sur la tech. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de résultats au niveau de la technologie, bien sûr. Et donc, ce sera un petit peu le juge de paix pour savoir si on peut espérer un reversal sur le SOX. Et puis, alors, le Dow Jones qui a donc cassé sa résistance des 40 000 qu'on avait testé deux fois. Là, cette fois, on a cassé. Et puis, on est allé très vite chercher très, très haut. Ça, c'était la phase de rotation de secteur du début de semaine. Et puis, finalement, quand tout a lâché avec l'histoire des semi-conducteurs, eh ben on est revenu assez violemment. Là aussi, on peut revenir tester sans trop de problèmes les 40 000 sur le Dow Jones. Et ce sera vraiment là le premier gros test qu'on aura. Si ça tient là, on peut imaginer que ça va repartir à la hausse. L'avantage du Dow Jones, c'est qu'il est quand même moins full of tech que d'autres indices technologiques justement aux États-Unis. Donc ça lui permettra peut-être de limiter la casse à un certain moment. Passons au pétrole. Alors le pétrole, je reviens sur mon graphique que vous connaissez bien maintenant. Donc on est toujours dans notre triangle. On a tapé les résistances, j'ai envie de vous dire, comme prévu. On a relâché gentiment, difficilement, mais on a finalement lâché. Vous voyez qu'on termine quand même la semaine à 78,64 sur le WTI. Donc, c'est le premier support qu'on attendait. Donc, on peut éventuellement rebondir sur ces niveaux-là. Mais si on casse, on va aller chercher de nouveau les bas du range autour de, grosso modo, des 75$. Et ce sera là le point le plus important pour acheter le baril, pour aller jouer éventuellement un rebond et finalement la cassure pour envoyer le baril plus haut. Donc ça, c'est le scénario que je continue de jouer. Donc premier support atteint, deuxième support à vérifier. La réponse probablement la semaine prochaine. Là, on a atteint les premiers targets. Pour ceux qui croient que le baril va beaucoup plus haut d'ici la fin de l'année, on peut commencer à en racheter un petit peu. Pour ceux qui veulent vraiment essayer de jouer le chart au plus précis, eh bien attendez qu'on revienne sur les 75$. Alors donc l'or a fait un nouveau plus haut la semaine dernière et puis après toute cette histoire, finalement il a lâché. Donc on a fait un nouveau plus haut historique sur l'or qu'on a atteint autour des 2470 et des brouettes ici. Et puis depuis, on fait que de baisser. Alors l'or, de toute façon, il a un peu appelé dans un premier temps à rester dans ce range. J'ai envie de dire, donc il faut plutôt le racheter sur les 2300 si on y retourne, mais c'est de loin moins sûr. Je dirais moyenne mobile des 50 jours à 2350, on peut commencer à en racheter pour jouer le prochain move, parce que clairement, de toute façon, il faut pas se leurrer, l'or il va continuer à remonter, ça prendra du temps, mais ça a l'air plutôt bien orienté. Et puis alors l'indice vedette de la semaine, la volatilité. Alors vous voyez que quand même, on a eu des excès de vol. Bon, ça, c'est à cause de l'affaire CrowdStrike de vendredi. Mais ce qu'il faut quand même retenir, vous voyez la taille du candlestick. Bon, je pense que c'est complètement une erreur. Il y a dû avoir un bug quelque part. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est la clôture de l'indice à 16,51. Et les extrêmes, on est allé chercher 17 sur la VIX. Alors qu'il y a encore 5 jours en arrière. Donc, je vous en parlais, je sais plus quand, mais on était quand même en dessous, autour de 12. Et là, on est monté quand même jusqu'à 17 sur la vol. Donc, ça recoupe ce que je vous disais en début de présentation. Les gens sont en train de se protéger parce qu'on sent quand même un certain stress pour les mois à venir, une certaine instabilité. Et comme vous le savez, on n'aime pas l'instabilité. On passe maintenant aux vedettes de la semaine. La première, eh bien, c'est Roche qui prend quasiment 10% cette semaine. Alors, j'en ai parlé 15 fois durant la semaine. Roche a découvert, travaille sur un produit qui s'appelle le CT996, qui est un produit anti-obésité qui vous permet de perdre 6,1% de votre masse corporelle toutes les 4 semaines et qui se prend par voie orale, contrairement aux injections que vous propose Novo Nordisk et les Lilly. Donc la semaine a été rythmée sur les prises de profit sur Novo Nordisk et sur les Lilly et sur un intérêt, avancé sur Roche qui retrouve un petit peu des couleurs. Alors ce sera intéressant d'observer ces prochains temps. Enfin, ce qui sera intéressant d'observer, c'est si tout d'un coup, ces spéculations sur ce produit qui n'est pas encore approuvé mais qui a l'air de bien fonctionner, est-ce que cela va permettre à certains analystes de commencer à réviser leurs targets sur Rush et leurs objectifs et leurs recommandations? Et ça pourrait encore une fois donner le nouveau coup de fouet supplémentaire sur Rush. Donc le chart se passe de commentaires. Donc le biseau qu'on avait un target à 265, il est cassé. On a 278 francs suisses sur le bon Rush. Donc on voit que le rebond est quand même assez spectaculaire. Et puis surtout, d'un point de vue technique, on a quand même une Golden Cross qui se dessine. Alors évidemment, on va se dire que les arbres ne peuvent pas monter au ciel, quoique avec ces thématiques d'obésité, on peut se poser des questions. La logique voudrait qu'on revienne sur les 260 et puis qu'on puisse continuer à construire notre train d'ascendant qu'on a ici. Vous voyez que j'avais dessiné il y a quelques semaines. Et donc le train d'ascendant qui pourrait se continuer dans cette direction. Là, on est sorti de cette tendance, un peu trop d'accélération. Mais de nouveau, la thématique de l'obésité rend les choses complètement... Tout est possible de ce côté-là. Autre charte méga spectaculaire, Novartis. Alors Novartis a publié ses chiffres, on en a parlé aussi, les chiffres étaient bons. Ils ont rehaussé leurs objectifs pour le prochain trimestre. Mais finalement, vous avez quand même là aussi pas mal de gens qui se disent « Ouais, on y croit plus vraiment, est-ce qu'il y a vraiment encore la possibilité de... » Alors, de nouveau, techniquement, c'est hyper intéressant parce qu'on a eu l'autre jour des upgrades qui ont emmené Novartis au-dessus des 100 balles et on est revenu à 94,20. Donc, la correction est quand même assez spectaculaire. Et on revient, comme par hasard, sur notre résistance, enfin notre ex-résistance qui aujourd'hui est devenue un support. Donc, il faudra surveiller cette zone des 94 pour voir si Novartis peut rebondir et continuer à développer son train d'ascendant qui est en train de se dessiner ici. Hein, si vous regardez un petit peu depuis là, ben on voit qu'on est en train de partir à la hausse. Là, on est sorti, on est venu se positionner sur la moyenne mobile des 50 jours. Est-ce qu'on a la force de construire et puis de continuer à avancer dans cette direction? Eh ben, les prochains jours seront assez importants. Mais de nouveau, très bon résultat de Novartis l'un dans l'autre, on peut quand même le dire. Des perspectives plutôt intéressantes. Mais ce qui pose encore problème, et ça, c'est pas uniquement à Novartis, dans cet environnement actuel, c'est que finalement, les gens veulent plus que bon, avec des bonnes perspectives. Il faut tout, que tout soit aligné avec des perspectives absolument dithyrambiques. Et si on en croit certains analystes, la seule qui est capable de nous sortir ça cette année, ce mois, pardon, ce trimestre, ce sera Nvidia. Une autre thématique qui était très populaire en début de semaine, mais dont on a oublié d'en parler sur la fin de semaine, c'était bien sûr la thématique du luxe. On a eu Swatch qui a publié des résultats pourri, avec une baisse des ventes, on a même eu Nikkei qui était très surpris par la forte baisse de la demande, donc le titre s'est fait massacrer. On a été aussi poussé à la baisse par Burberry en Angleterre qui a publié des chiffres immondes en début de semaine avec un quasi profit warning sur le fait que ça ne marchait pas, que ça ne marchait plus. Donc il y a une grosse pression sur le luxe, pression qui s'est ressentie donc sur Swatch à cause aussi de ses résultats pourris, mais également sur Richemont. Richemont qui a sorti des résultats moins mauvais que les autres, donc il s'en sort toujours plutôt pas mal, mais malgré tout, il y a une pression vendeuse sur le luxe qui a mis la pression sur ces deux actions durant la semaine. Donc ça reste extrêmement difficile pour les deux, même si de nouveau, on peut clairement se rendre compte que Richemont s'en sort nettement mieux que Burberry's déjà et que Swatch. Alors évidemment, c'est toujours des business un peu différents parce qu'ils ne sont pas tous similaires. Mais voilà, ce qu'il faut retenir sur cette semaine, c'est que Richemont a subi les prises de profit massives sur le luxe un peu partout dans le monde et que Swatch a subi les prises de profit plus des résultats qui sont bien pourris par rapport à ceux de Richemont. Alors vous voyez Richemont, hein, encore une fois, des résultats pas décevants, pas catastrophiques, mais le titre a quand même cotisé comme tout le monde dans une moindre mesure. Par contre, on revient sur la moyenne mobile des 200 jours et vous voyez quand même que depuis quelques temps, eh bien, c'est un niveau qui nous intéresse et qui est plutôt constructif. Alors pour Richemont, eh bien, si vous croyez encore à l'avenir du luxe et que les riches vont continuer à dépenser des trucs dans les grands magasins de luxe, eh bien on a un gros support dans la zone des 130, 131 sur Richemont, donc c'est là qu'il faudra essayer de racheter. En revanche, si on casse ce support, on a des points bas autour des 120, par là autour, et puis on a un gap ici à combler. Donc le risque maximal serait à 120, comblage du gap et rachat. Mais pour l'instant, ça dépendra là où, par rapport à ce qu'on sait de Richemont et du luxe, une grande partie des mauvaises nouvelles sont sorties. Maintenant, si Richemont va plus bas, ce sera parce que le marché ira plus bas. À Swatch, ça se passe de commentaires, mais malgré la claque qu'on a eue l'autre jour, on voit qu'il y a quand même des gens qui commencent à essayer de racheter. C'est vrai que quand on regarde finalement l'historique de Swatch depuis mars 2023, on était à 343 francs sur Swatch et aujourd'hui, on se retrouve à 177 francs. Donc, on voit quand même qu'on a divisé le titre par deux. Et là, il y en a quand même deux, trois qui sont en train de se dire « on va racheter ». Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, la configuration, ça reste un couteau qui tombe. Donc, il n'y a pas forcément d'urgence de revenir se positionner sur Swatch, à mon sens. Même si on sait que Les ventes de montres sont toujours une zone cyclique où ça va, ça vient, et à la fin, ça revient toujours dans la bonne direction. DKSH dans la distribution a publié des chiffres cette semaine, des ventes qui ont été pénalisées principalement par les effets de change. Mais par contre, alors, ils améliorent quand même vachement bien leur rentabilité, et le management prévoit de nouvelles acquisitions dans le futur, donc plutôt constructif. Pas des chiffres dithyrambiques, mais de l'espoir et une motivation pour l'avenir en tous les cas, ce qui a permis au titre de relativement bien se comporter cette semaine en comparaison d'autres secteurs. Le chart se passe de commentaires, mais vous voyez que c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu sur d'autres charts ces derniers temps en Suisse. On a cette espèce de base qui se construit, de base légèrement arrondie. Configuration qu'on retrouve également sur Nestlé tout en bas, et tout d'un coup, bah, vous avez le titre qui se réveille et qui accélère à la hausse. Voilà ce qu'on peut dire sur DKSH qui s'en sort un peu moins mal, comme je le disais précédemment. ABB a également publié ses chiffres cette semaine. Alors globalement, ils ont publié des chiffres plus ou moins en ligne avec les attentes, dépendant les attentes de quel analyste, mais plus ou moins en ligne. Par contre, c'est à l'intérieur que ça dérangeait un tout petit peu, parce qu'on a vu quand même que les carnets de commandes étaient plus faibles que prévu. On a vu surtout que la division robotique n'était pas aussi forte que ce qu'on attendait. Donc, c'est tous des effets qui pénalisent un tout petit peu le titre, même beaucoup le titre, puisque du coup, on n'a entendu que des commentaires prudents, pas négatifs, mais peu satisfaits par rapport à ce qu'ils ont sorti. L'un dans l'autre, le package global était bon. Mais là encore, on était cherché dedans, et puis c'était un petit peu moins bien que ce qu'on espérait, surtout au niveau, bien sûr, haute technologie et électrification et robotique. Donc voilà, ABB a pris une claque cette semaine, ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Mais fallait bien que ça se produise un jour. Donc voilà, techniquement, difficile d'en tirer quelque chose sur ABB. On sort quand même d'une période de hausse absolument démentielle, puisque depuis octobre 2023, eh bien, ABB est passé de 30 balles à 51, enfin aujourd'hui à 48 francs, avec un top à 52,5 l'autre jour. Il faudra voir, pour l'instant, effectivement, comme vous le voyez sur le graphique, on est dans cette tendance, hein. Pour l'instant, on s'est arrêté sur les supports. Donc bah voilà, il faudra surveiller ce niveau-là. Est-ce qu'on est capable de reconstruire? J'imagine assez mal qu'on ait cherché le gap là en bas pour l'instant. Mais voilà, donc à surveiller l'évolution sur ABB. Dites-vous quand même bien que si on va en dessous des 47 francs suisses, ça commencera à être un tout petit peu inquiétant sur ABB. La semaine qui nous attend au niveau des résultats sera énorme, comme d'habitude. Alors, c'est pas la plus grosse, mais ça va commencer à chauffer. On va dire que les deux semaines qui nous attendent vont être extrêmement compliquées. Alors, vous voyez qu'on va commencer la semaine relativement tranquille. Néanmoins, on aura quand même NXP qui va publier à surveiller, et SAP qui publieront lundi. Mardi, ça va commencer à chauffer avec Spotify, UPS, GM, Coca. Et derrière, vous avez Freeport McMoRan pour les mining, Lockheed Martin pour l'armement, Comcast dans le média. Et puis Philip Morris là en bas. Vous aurez ensuite, après la clôture, Tesla et Alphabet qui vont donner le ton pour les Magnificent Seven. Vous avez Enphase dans le solaire. Vous avez Visa au niveau des financières. De nouveau, les semi-conducteurs avec Texas Instruments. Et puis ensuite, on passera à mercredi. Alors là, il y aura Chipotle qui sera important. AT&T, on s'en occupe plus vraiment. Dans les nouvelles technologies au niveau de l'énergie, Nextera qui publiera. Et Thermo Fisher également. Et puis IBM dans le Dow Jones qui est toujours bien regardé, même si c'est plus comme avant. Las Vegas Sands au niveau des casinos. Whirlpool au niveau de la vente de détail. Et puis en fin de semaine, eh bien, American Airlines, par rapport à ce qu'on a vu, ça va pas être terrible. Une des meilleures payeuses de dividendes, ABBV, qui publiera. On notera encore des Southwest également dans les compagnies aériennes, AstraZeneca au niveau de la pharma. Et puis on aura en toute fin de semaine 3M, toujours important à regarder parce que c'est une boîte qui est en reconstruction, et Colgate Palmolive dans les choses absolument indispensables qu'on doit acheter. Donc comme vous le voyez, une semaine qui va être énorme en termes de publications trimestrielles pour les sociétés. Et puis au niveau des chiffres économiques, il y aura également beaucoup de choses. On va regarder le tableau tout de suite. Alors on va commencer la semaine tout en douceur, et puis on aura grosso modo pas grand chose en début de semaine, et puis mardi on aura rien non plus, ce sera relativement calme. Par contre, au niveau de mercredi, on va avoir le climat de la consommation en Allemagne, une avalanche de PMI qui seront publiés en Europe entre autres, mais également les ventes de détail aux États-Unis, ainsi que les PMI, Manufacturing PMI aux States, et puis aussi, comme tous les mercredis, les inventaires pétroliers qui seront publiés. Vous voyez au milieu de tout ça qu'il y aura quand même pas mal de banquiers centraux qui vont parler. Et puis alors, en fin de semaine, alors là, ça va commencer à chauffer, puisque vous le voyez, jeudi, on aura le chômage en France, les jobless claims aux États-Unis, bien sûr, et puis alors la première vague de PCE ainsi que le PIB américain, qui seront des choses très très importantes avant de passer, bien sûr, vendredi au PCE, donc le chiffre, le corps PCE et le PCE, le chiffre important pour la Fed, ce qui leur permettra de savoir si vraiment ils vont baisser les taux ou pas, mais a priori, il ne devrait pas y avoir trop de surprises, et puis après, on aura bien sûr le Michigan Consumer Expectation, mais ça en ce moment tout le monde s'en fout. Donc on aura une semaine qui sera très chargée au niveau des trimestriels, avec pas mal de chiffres économiques macro de seconde zone dans la première partie de la semaine, et puis on va attaquer du lourd en fin de semaine. Donc on aura encore l'occasion de voir si finalement ce doute dans lequel nous sommes aujourd'hui va perdurer, ou est-ce qu'on va enfin trouver des réponses à toutes nos questions. Franchement, j'en doute, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit que le marché est extrêmement crispé, tendu, et se pose beaucoup de questions. Et il y a une seule chose qu'il faut retenir, vraiment, c'est ce côté volatilité qui explose, puisque les gens sont en train de se hedger, de se protéger, pour une éventuelle période un tout petit peu plus turbulente que ce qu'on a vécu depuis quelques temps. Et bien sûr, il faut toujours se souvenir que quand on a la certitude, ou surtout quand on change de cycle au niveau des taux, quand ils commencent à baisser, c'est à ce moment-là que les profits se prennent, comme on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc il y a quand même un risque à un moment donné de voir une zone de profit taking. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on va encore avoir un dernier run-up avant d'avoir cette profit taking qui va durer un peu plus longtemps? Les réponses, on est en train de les chercher en ce moment, en plein milieu de l'été. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de la partager. En ce qui me concerne, à partir du week-end prochain, je serai moi en vacances. Mais rassurez-vous, il y aura quand même des vidéos. Donc le Swiss Bliss, là, pendant quelques temps, ça va être un peu en pending, parce que je serai moi aussi à la plage. Mais par contre, je compenserai avec d'autres choses. Vous inquiétez pas, vous verrez ça au fur et à mesure. Mais voilà, pas de Swiss Bliss donc la semaine prochaine. Par contre, lundi matin, Morning Bull Live, comme d'habitude. En ce qui me concerne, mes vacances, ça sera vendredi prochain. Allez, bonne journée à tous. Excellent week-end et à lundi. Bye bye.